Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
On a tous entendu parler des actes très agressifs qu'il y a dans le métro de Montréal, une multiplication d'incidents violents, notamment la fille de Richard Martineau, notre collègue, qui a été frappée par une itinérante dans le métro là, il y a quelques jours. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce que c'est un phénomène qui nous saute dans les yeux, qu'on n'a pas vu venir? On pose la question à Abdellah Kissari, conseiller de ville du district de Marie-Clarac et vice-président de la Commission de la sécurité publique. Bonjour, M. Kissari.
Bonjour.
Vous l'avez vu venir, cette montée des incidents violents qui frappent notre métro?
Oui, on l'avait vu venir au niveau de l'opposition officielle en 2022, puis on s'est levé au niveau du conseil municipal et on l'a exprimé. À ce moment-là, la réponse de l'administration n'était pas uniquement juste pas claire, mais également, ils nous ont un peu accusés de faire peur à la population. Alors, ce qu'on voulait, c'est vraiment des actions beaucoup plus concrètes pour contrer ce sentiment d'inquiétude qui régnait dans le métro, pour plusieurs raisons que je pourrais évoquer par la suite. Cependant, ce que nous, on a vu de l'administration, c'était totalement le contraire. Ce qui est arrivé, c'est que de 1, l'unité 50, qui est juste pas loin de vos studios ici, qui est responsable du métro et de l'unité canine, elle était réduite. Alors, le nombre de policiers dans nos métros a été réduit suite à notre intervention.
Ah, mais vous parlez des policiers de la STM.
Du SPVM qui circulent et qui patrouillent dans nos métros. Il y en a moins depuis qu'on a eu ce sentiment d'inquiétude des usagers, usagères. Deuxième chose, c'est que si on voit le budget de l'année dernière, il y a une baisse de 20% sur la sécurité dans nos métros. Ah, et c'est là où j'interviens une deuxième fois. Je dis, il y a des gens qui nous rapportent des faits sur plusieurs éléments. Le premier, c'est concernant, bien évidemment, cette question qu'il y a beaucoup d'itinérants, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, mais pas que. Il y a également de la criminalité qui est au sein de nos métros et que, malheureusement, ça ne rassure personne. Puis il y a plusieurs personnes qui délaissent le métro, qui délaissent le transport collectif. Et ça, c'est très malheureux dans une ville où on veut inciter tout le monde à prendre le métro, bien évidemment.
Quel est le rôle que doit jouer le SPVM versus la STM? Parce que dans les deux, il y a normalement des unités, des personnes qui sont dédiées à assurer la protection et la sécurité dans le métro. À qui vous jetez le blâme, la STM ou le SPVM?
Je ne voudrais pas jeter le blâme, mais ce que je jetterais le blâme, c'est surtout de la manière de gouverner, parce qu'on a beaucoup d'intervenants présentement, et même moi qui est membre de la commission de la sécurité publique depuis 2017, j'arrive plus à suivre. Il y a beaucoup d'escouades, beaucoup de noms qui sursautent à chaque fois qu'il y a une sortie médiatique de Madame Plante. On a un nouveau nom. On parle d'ambassadeur, on parle d'émis, on parle de CCR, on parle de. Il y a plein de noms qu'on a eu depuis 2022 et. Le problème, c'est que le résultat n'est pas là. Alors, ce que je peux vraiment dire, tout simplement, oui, on a des bien évidemment, des patrouilleurs du SPVM qui sont toujours là, mais ils vont avoir de la difficulté vu qu'on a réduit les patrouilleurs souterrains dans le métro. Ben là, maintenant, quand on a un appel, ben les gens vont venir des postes de quartier. Bien évidemment, on a demandé de voir est-ce que le temps de réponse a été affecté. On n'a pas encore eu la réponse suite à une demande d'accès à l'information. Maintenant, parlons des constables. Les constables de la STM, je ne peux pas jeter le blâme sur eux parce que, de un, ils ne sont pas équipés de la manière qu'il faut pour contrer la question de violence.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Premièrement, ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas la même formation qu'un policier. Puis, deuxièmement, ils ne peuvent pas intervenir sur toutes tous les méfaits qu'on peut retrouver. Et c'est là où j'aimerais bien vraiment distinguer un élément. Les incidents qu'on a vus dernièrement, ils sont de deux types. Et de un, il y a de la criminalité pure et dure qu'on peut retrouver où il y a des problèmes de vente de drogue, il y a des criminels qui sont sur place. Mais par contre, il y a également de la question de la santé mentale. Oui, un intervenant peut intervenir, mais à un certain moment, quand il y a de la violence, ça demande bien évidemment une intervention policière parce qu'on parle vraiment d'un élément de criminalité à ce moment.
Mais le métro de Montréal, prenons l'exemple du métro de Montréal, c'est devenu aussi un refuge pour bien des personnes, en période de froid, évidemment, le problème d'itinérance à Montréal, le sous-sol et le métro deviennent un refuge des intempéries. Le problème de vente de drogue un peu partout au centre-ville de Montréal, la toxicomanie, on les voit où? Aux abords des métros. Les personnes en situation de maladie mentale, là, des personnes qui ont des troubles de maladie mentale, se retrouvent désorganisées, complètement désorganisées dans le métro. Mais On le sait tout ça, il ne faut pas une étude pour le savoir. On n'a qu'à se promener entre le métro ici, Berry-UQAM, à Honoré-Beaugrand, là, sur la ligne verte. On en a de toutes les couleurs.
Mais Madame Abdel-Fadel, moi je vais vous le dire tout de suite, moi j'étudie à l'UQAM, j'ai étudié à l'UQAM depuis 2003, puis j'enseigne depuis 2007 à l'UQAM. Je connais très bien le coin. Ça s'est détérioré par contre. Si on fait une analyse évolutive dans le temps, depuis la pandémie, même avant la pandémie, il y a une détérioration de la question de quiétude. Moi, en m'installant au Québec en 2002, j'ai choisi Montréal parce que pour une question de quiétude d'abord. Et le choix de la quiétude, d'une ville suite à une quiétude, on voit qu'au niveau de l'évolution de la sécurité, que ce soit dans le transport en commun, que ce soit dans nos rues, que ce soit dans les écoles, ça se détériore. Et ça se détériore surtout les dernières années. Et là, je pense que l'intervention qu'il fallait faire, c'est de ne pas re-questionner le tout, ne pas refaire le tout, mais peut-être de voir qu'est-ce qui marche et le garder, ce qui n'a pas été fait par la... fait par l'administration Plante, et bien évidemment voir où est-ce qu'on peut évoluer mieux. Maintenant, sur la question de, oui, il y a des itinérants qui sont là l'hiver, ben c'est une stratégie que l'administration Plante, je trouve vraiment qui est déplorable. Pourquoi ? C'est comme elle attend que la neige fonde, ben elle attend que vraiment qu'il y ait moins de froid pour que les gens sortent du métro. Et ça, c'est pas vraiment la bonne stratégie à mettre en place. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de mettre en place les mécanismes. Il y a également des personnes à la STM qui peuvent aussi collaborer. On a des personnes à la porte que parfois, ils vont juste diriger le monde. Ils peuvent descendre dans les quais, vraiment eux-mêmes, je dirais, voir ou exprimer ce qui se fait, puis le rapporter à leur supérieur ou le rapporter tout simplement au constable et au SPVM. Malheureusement, ça ne se fait pas. Alors, je pense que ça prend une intervention rapide de la part d'une administration qui veut inciter les gens à aller en transport collectif. Nous aussi, on le veut, mais il n'y a aucun alignement stratégique à cet égard. Je pense qu'au contraire, ce qu'elle fait l'administration, c'est qu'elle décourage et les gens, plutôt, les encourage à délaisser le transport actif et le transport en commun.
Mais demain matin, on va dire qu'ensemble, Montréal est élu à la mairie de Montréal, que vous êtes majoritaire, que vous êtes membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique. Quelles sont les actions qu'Ensemble Montréal propose concrètement?
Premièrement, au niveau de la STM, on va commencer par la STM. Premièrement, là où il y a des ampoules où c'est vraiment brûlé, puis on a plein.
Il y en a plein.
Moi, je prends le métro le soir, puis on a plein. Ça, c'est de 1, ça doit être réglé. On parle quand même d'une question quand même de sécurité. Ça, c'est de 1. De 2, au niveau des escouades, il faut en arrêter. Si je veux mettre en place une escouade de sécurité publique, il faut que je garantisse la pérennité. Ce qu'on a eu avec le ECCR, c'est que le Québec, quand elle a décidé de tirer la plug, elle a tiré la plug. Je ne veux pas quand une métropole qui a un budget de 7 milliards de dollars dépende vraiment d'un budget qui n'est pas récurrent de la part de Québec. Et je vais arrêter de gérer un élément aussi important comme la sécurité publique avec des sorties médiatiques. Et je suis sûr, je vous le dis tout de suite, je dirais aujourd'hui, que Mme Plante va sortir dans les prochains jours faire une autre, je dirais, une autre relation publique, une sortie de communication sans aucune stratégie. Je vous donne juste un autre élément. L'été arrive et ça fait des années que je leur demande, par exemple, des schémas de couverture, un plan, par exemple, estival, un plan vraiment pour l'été, parce qu'on voit qu'il y a une recrudescence de la violence armée. Il n'y a pas de plan. Et ça, c'est très important. Alors, pour moi, quand il y a des éléments où ma population est inquiète, c'est pas là où je vais commencer à réduire mon poste de quartier. C'est pas là où je vais vraiment créer des escouades en faisant vraiment à dégarnir, bien évidemment, des postes de quartier. On voit clairement, quand on passe la nuit par plusieurs postes de quartier, on voit qu'il y a des voitures qui stationnent la nuit dans nos parkings. Ça veut dire qu'il y a des policiers en moins qui patrouillent pas. Alors ça, c'est des choses qu'on devrait éviter et ça, c'est très important de le mettre en place.
Le sentiment de sécurité à Montréal est franchement entamé. Autrefois, on était presque insouciant en marchant dans les rues de Montréal. On n'avait pas cette crainte. Là, aujourd'hui, on vit dans une période où il y a de l'hypervigilance. T'sais, on craint la personne qui va marcher à côté de nous. On craint de rencontrer une personne qui est mal intentionnée, une personne qui est intoxiquée, une personne qui souffre de maladies mentales. Ce sentiment, c'est difficile de retrouver. C'est facile de le perdre, le sentiment de sécurité. Très difficile de le retrouver. Au-delà des actions réellement de répression et de prévention, comment redonner le métro de Montréal, les parcs de Montréal, les rues de Montréal aux Montréalais?
C'est une question, ça demande quand même une bonne stratégie, mais le plus important, c'est de redonner la confiance de la population envers les policiers et policières, surtout notamment auprès des jeunes. Au niveau de la santé mentale, je pense que même les répercussions qu'on a eues après la pandémie, on n'a pas vu tout toute la répercussion. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui vont venir, puis les personnes ont été affectées, puis on le voit, puis je pense qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Alors, ça demande vraiment de l'aide. Et deuxièmement, par rapport toujours à ce principe qui concerne la santé mentale, nos organismes ont besoin d'aide. Et ça, j'ai vraiment fait un cri de cœur pour vraiment les aider, pour vraiment mieux les financer d'une manière beaucoup plus avec une pérennité. Le dernier point, c'est surtout au niveau du partage vraiment de les itinérants, oui, on a de plus en plus, même plus que ça. Je vous donne un exemple. Moi, je savais qu'il y avait des itinérants au centre-ville, au plateau Mont-Royal. C'est là où je les voyais depuis 2006, 2007, 2008. Mais quand on les voit à Montréal, et en masse, et à Rivière-des-Prairies, et à Pointe-Tremble, et on les voit même à Dollard-des-Ormeaux et dans d'autres villes liées, je pense que là, la problématique est devenue beaucoup plus large. Et la façon avec laquelle on les voyait, puis qu'on attendait que l'été arrive pour qu'ils sortent du métro, ce n'est pas la bonne stratégie. Je pense qu'il faut revoir ces éléments-là. Montréal a changé, les problèmes sont vraiment divers. Et bien évidemment, c'est une ville qui est accueillante. Et on a beaucoup de personnes qui sont, bien évidemment, ici demandeurs d'asile. Et ça, c'est un autre enjeu que l'administration Plante n'a pas vraiment su affronter à ce niveau-là. Je pense qu'il y en a plusieurs éléments, mais au niveau de la quiétude elle-même, je pense que la population a toujours confiance en son service de police de la ville de Montréal, mais je pense que notre service de police a subi beaucoup de changements. On vient d'avoir un nouveau directeur qui est beaucoup plus stable. Mais vous savez-vous que depuis que je suis arrivé en politique en 2017, on a eu 6 chefs de police, ou 5 ou 6 chefs de police, et on a eu 5 personnes responsables de la sécurité publique à l'administration Plante. Ça, on fait beaucoup de changements. Il n'y a pas de stabilité à ce niveau-là.
On dirait le ministère de l'Éducation. Ça aussi, c'est des portes tournantes.
Exactement. Ben, on dirait qu'ils sont un peu inspirés de ça, mais ce n'était pas une bonne inspiration.
Monsieur Sarri, il y a un autre phénomène qui m'inquiète beaucoup à Montréal, c'est celui de la criminalité chez les jeunes. Et quand je dis jeunes, je ne parle même pas de 16-17 ans, je parle de 12, 13, 14 ans. Pas plus tard que la semaine dernière, un jeune de 14 ans qui venait de faire feu sur des personnes inconnues dans la rue, après avoir volé une voiture, a fait un accident de voiture et en est décédé. Des jeunes qui ont participé à l'agression ils ont poignardé finalement un itinérant à la station Lionel-Groulx. Deux autres jeunes en février qui ont été arrêtés pour vol à main armée dans le métro alors qu'ils volaient des cellulaires et volaient des personnes, des usagers du métro. 54 chefs d'accusation qui ont été déposés contre eux. Qu'est-ce qui arrive avec nos jeunes qui sont encore adolescents?
La première des choses, je vais partager avec vous quand même une étude qu'on avait faite à Montréal-Nord, parce que je ne veux pas vraiment stigmatiser le Montréal-Nord, mais on voulait la faire chez nous, mais ça donnait que, de un, et je ne veux pas stigmatiser les jeunes non plus, il y a une banalisation de la violence d'une manière générale auprès des jeunes. Et ça, c'est très important. Puis j'avais écouté M. Dumont dernièrement parler d'une certaine frontière entre le virtuel et le réel. Mmh. Je pense que cette frontière, elle n'est vraiment pas nécessairement aussi nuancée auprès de nos jeunes. Puis ça prend vraiment un certain travail, beaucoup plus, je dirais, c'est pas juste la métropole qui doit travailler là-dessus, mais l'ensemble de la province et même du pays. Ça, c'est de un. De deux, bien évidemment, l'accessibilité aux armes à feu. L'accessibilité aux armes à feu, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément, notamment où ils ont vraiment une certaine accessibilité à des armes à feu qui sont de plus chères d'ailleurs sur le marché noir. Ça, il faut le savoir. Puis de deux, mais ils ont une certaine capacité de les composer avec des composantes qui ne sont pas nécessairement bonnes, puis qui fait en sorte que même l'arme qui est dans leurs mains, qui est dangereuse, devient beaucoup plus dangereuse. Ben, la question maintenant, c'est surtout ces jeux-là, quand on veut leur parler. Malheureusement, il y a une certaine rupture de la communication entre nos services de police et ces jeunes-là pour des questions de confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rétablir assez rapidement. Ce pont de communication que nos jeunes, malheureusement,
Il n'y a pas de respect pour l'autorité policière.
Pour l'autorité, pour les systèmes autoritaires et surtout pour l'autorité policière.
Un peu comme en France.
Surtout. Puis je ne veux pas qu'on arrive là. Je pense pas que la France, c'est quelque chose qu'on doit vraiment s'inspirer, parce que je suis allé vraiment, moi et Mme Black, qui est la mairesse de Montréal-Nord, visiter une région qui ressemble à Montréal-Nord, qui est Évry-Courcouronnes, mais je veux pas qu'on arrive là. Je veux pas qu'on ait ce modèle policier. Je veux pas qu'on ait des caméras partout. Je veux pas qu'on ait des policiers partout. Au contraire, il faut travailler auprès des jeunes, mais il faut établir cette question de confiance. Et là, vous ouvrez la porte un peu pour parler d'un élément que moi, ça fait quoi, depuis 2017 que j'en parle, 2018, les caméras portatives, on en est où? Ça fait des années qu'on veut vraiment, que même les jeunes les veulent, les policiers les veulent, puis il y a une seule frontière là-dessus, c'est l'administration Plante. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire, mais à chaque fois qu'on voit qu'il y a des actions, mais des petites actions qui pouvaient être faites ici et là, qui peuvent avancer les choses, mais au contraire, l'administration fait le contraire. Et je pense qu'il y a un autre élément que je veux vraiment aussi, je ne veux pas le critiquer, mais on voit clairement que le forum qui a été créé par le SPVM et l'administration Plante n'a pas donné de fruits.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Le forum des jeunes qui a été mis en place, puis qu'on voulait avoir une deuxième édition et troisième édition chaque année, et qui liait un peu la violence des jeunes au niveau de la problème de santé mentale. Mais je dirais oui, c'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas que. Il y a d'autres éléments qu'il faut aller voir.
Mais il y a les parents. Où sont les parents de ces jeunes-là? Quand un enfant à 14 ans, il sort à 4 heures le matin tirer sur du monde avec une arme et voler une voiture. Je sais pas, vous avez des enfants. Oui. Est-ce que si votre enfant sort à 3 heures le matin, vous allez le savoir?
Mais madame Delfadel, moi j'ai parlé avec des parents qui ont perdu leurs enfants,
oui.
Plusieurs. Et le déclic de ces jeunes-là, ce n'est pas un déclic qui a pris des mois. Hein. Parfois c'est 48, 72 heures. Puis qu'il est vraiment recruté par des... Je peux vous dire une chose, un autre élément qui est très important. Le recrutement se fait selon un processus de personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que notre système et qui évoluent de manière beaucoup plus rapide que notre système. Alors, ces gens-là qui recrutent nos jeunes dans nos écoles de différentes manières, puis qu'ils ont même des réseaux qui sont fermés, puis il n'y a personne qui en parle auprès des jeunes pour même au moins de rapporter les faits, ça devient plus dangereux. C'est là qu'il faut vraiment travailler. C'est sur ce phénomène où des influenceurs, des mauvais influenceurs, peuvent aller recruter nos jeunes, malheureusement, très rapidement. Mais le dernier jeune qui est mort, si on voit un peu son parcours, c'est un gars qui était brillant à l'école.
Oui, mais il s'est fait mettre à la porte de l'école.
Exact.
Avant d'en arriver là, il a dû avoir quelque chose aussi.
Et en même temps, bien évidemment, les parents n'ont pas été bien équipés. Nous, on a demandé d'avoir une ligne pour les parents. Parce que là, maintenant, il faut travailler auprès des parents. Ils ne sont pas équipés. Moi, je vais faire une tournée au niveau de tous les centres communautaires, je dirais de toute origine, mais notamment maghrébine, pour pouvoir au moins parler aux parents, leur dire « voici les ressources ». Mais parfois, je regarde les ressources qui sont disponibles, puis j'ai demandé aux gens « est-ce que vous avez parlé avec la ligne d'écoute ?» Ils me disent « oui, mais c'est comme un 3-1-1, il n'y a pas de ressources réellement. » Quand on les a appelés, ben, il n'y avait rien.
Il y a deux craintes dans ces communautés-là. La première, c'est évidemment une méfiance envers l'autorité policière, qu'on ne voit pas comme un partenaire, mais comme un ennemi, un adversaire. Et méfiance envers les directions de la protection de la jeunesse. Toute dénonciation d'une problématique avec un enfant est perçue comme un éventuel retrait de l'enfant du nid familial qui serait une catastrophe pour cette famille. Donc finalement, ils ne sont ni accompagnés dans la protection de la jeunesse, ni accompagnés dans la prévention et la répression du crime potentiel.
Et ni dans la ligne de côte qu'on nous on voulait mettre en place au niveau de la ville de Montréal.
Ça commence à être problématique.
Très, très problématique. Et je pense que maintenant, oui, il faut travailler auprès des jeunes, mais il faut travailler également et surtout avec les parents. Et j'ai beaucoup de parents. D'ailleurs, j'ai un groupe à Montréal-Nord qui s'appelle Les Mamans pour la protection des enfants parce qu'il y en a une des mamans qui a perdu son fils. Et parfois, c'est juste une femme monoparentale.
Ben oui.
On parle des parents, mais parfois, ce n'est pas les parents, c'est
la mère, le père.
Et c'est la mère et le père.
Abdelhak Sari, conseiller de la ville du district Marie-Clara, qui est vice-président de la commission de la sécurité publique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi.
Au revoir.